Et je vous invite à entendre deux textes. Le premier dans le Siracide. Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs assidus du Siracide, mais un livre écrit tout à fait à la fin de l'Ancien Testament, et un livre deutérocanonique, si je me trompe, on doit être, je ne sais pas moi, aux alentours, entre le milieu du deuxième siècle et le premier siècle, dans cette période tout à fait à la fin du judaïsme. Hein. Et voici ce texte au chapitre 18, les versets 8 à 14. Qu'est-ce que l'homme ? À quoi sert-il ? Que signifie le bien ou le mal qu'il fait ? Le nombre de ses jours est grand s'il atteint 100 ans. Une goutte d'eau de la mer, un grain de sable, telles sont ses années face à l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur est patient à l'égard des hommes et déverse sur eux sa pitié. Il voit et sait combien leur fin est misérable. C'est pourquoi il multiplie son pardon. L'homme a pitié de son prochain, mais le Seigneur a pitié de toute créature. Il reprend, il instruit, il enseigne, il ramène, tel le berger, son troupeau. Il a pitié de ceux qui acceptent l'instruction et de ceux qui recherchent avec empressement ses jugements. Voilà ce premier texte, et puis un deuxième dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Une histoire que vous connaissez bien. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Oui, Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, avant d'aller plus loin, je vous invite à chanter le cantique 228. Oui, Père, tu t'es penché sur notre enfance et tu es là depuis toujours, à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles où parfois nous avons l'impression que tu es bien loin de nous. Et pourtant, tu es là, en puissance et en esprit. Merci, Père, pour ta présence au cœur même de notre vie. Amen. Voilà, retour sur ce passage de l'Évangile avec cette guérison miraculeuse et à distance de 10 lépreux. Alors effectivement, on peut faire de ce texte une lecture tout à fait littérale en disant que tout ce qui se passe là est vrai, réel, je dirais. Il y a une prière de demande qui est très simple, mais qui n'en est pas moins profonde, évidemment. Les pitiés, disent les lépreux, et on comprend qu'ils aient cette prière, compte tenu de l'importance de la maladie et de l'exclusion sociale qu'elle représentait à l'époque. Et puis, il y a la guérison qui est là et qui arrive de manière tout à fait mystérieuse. Il y a très peu de guérisons qui se font à distance dans le Nouveau Testament. Vous savez, il y a la fille, le serviteur du centurion aussi, qui est guéri comme ça à distance, sans que Jésus ne se déplace. Dire, mais vraiment, c'est extrêmement rare. Donc, on est là, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la reconnaissance de ce Samaritain que Jésus a guéri, qui fait cas de la prière, etc. Alors, on peut se dire que si Jésus est confessé comme étant le Fils de Dieu Tout-Puissant, comme c'est le cas dans les confessions de foi classiques de l'Église, les symboles des apôtres, Nicée-Constantinople, ou que sais-je encore, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils, unique, notre Seigneur, etc., notre Sauveur. Je veux dire, si on fait cas de ce type d'affirmation, eh bien, ça peut être tout à fait formidable, je veux bien le croire, ça peut être porteur pour ceux qui rentrent dans ce type de manière de dire Dieu. Mais ça n'est pas sans problème. Parce que pourquoi faut-il croire en ce Dieu Tout-Puissant et à son Fils qui a en lui la puissance de son Père? Parce qu'enfin, il y a quand même des limites à cette manière de lire l'Écriture. Si je suis malade, je peux me poser quelques questions. Voilà. Ou lorsque je suis au pied d'un grand malade, du lit d'un grand malade à l'hôpital, de quelqu'un qui est accablé par une maladie pas possible, qui débouche très souvent sur un décès, dans des souffrances qu'on ne peut décrire, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Dire, pourquoi ma prière n'est-elle pas entendue ? Parce que bien évidemment, lorsque je rends visite à des gens qui sont malades, je prie pour eux, enfin, spontanément, dans un élan naturel, je dirais. Alors, je ne sais pas si théologiquement c'est pertinent, mais humainement parlant, ça se passe comme ça. Je pense que pour chacun d'entre vous, c'est pareil, évidemment. Et d'autant plus que les gens qui ne sont pas bien sont proches de nous. Ou alors nous-mêmes, lorsqu'on n'est pas bien et qu'on se tourne vers Dieu, si vous pouvez me délivrer de ce mal qui m'accable. Alors, ma prière est-elle nulle s'il n'y a pas de guérison? Est-ce que ma foi n'est pas assez forte, finalement? Après tout, pourquoi pas? Je suis prêt à l'accepter, à le croire. Mais il y a beaucoup plus grave. Les maladies dans l'Antiquité étaient attribuées à une malédiction, et en particulier la lèpre. Si ces gens sont lépreux, c'est qu'ils ont fauté à un moment donné ou l'autre, ou un de leurs ancêtres a fauté. Et la malédiction, passant de génération en génération, vient les frapper eux-mêmes. Comme ça que les gens le voyaient. Mais pourquoi Dieu maudit-il ainsi ces gens-là? Ou pourquoi Dieu me maudit-il? On peut se sentir maudit par Dieu. Je sais que ça existe. Peut-être aussi sommes-nous oubliés par Dieu. Ce que disait Marie-Louise Giraud, dont on a parlé là récemment, qui avait 99 ans, disait « Dieu m'a oublié ». C'est pas possible autrement de dire. Parce que moi, j'aimerais bien mourir, maintenant j'en ai assez, mais visiblement, il m'a complètement oublié. Mais c'était une forme de plaisanterie, parce qu'elle avait un humour assez marqué, évidemment. Mais le problème, c'est aussi la culpabilité. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Vous savez, c'est cette réflexion qui nous vient naturellement, que tout à chacun a en mémoire, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un truc pareil? Ce n'est pas possible, je veux dire. Mais si vous voulez, ça signifie qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins consciemment, de manière plus ou moins forte, on a des formes de culpabilité qui sont là en nous. On essaie de justifier, de comprendre pourquoi il y a cette souffrance. À moins que, comme disent certains théologiens, eh bien, ce soit voulu par Dieu. C'est un mystère qui nous dépasse. Et si c'est voulu par Dieu, c'est que c'est bien pour nous. Mais je n'arrive pas à dire ce type de théologie à un grand malade. J'ai quand même quelques difficultés. Même si j'aime bien Calvin avec sa double prédestination, qui dit que certains sont damnés et que d'autres sont sauvés, ce type de théologie, je n'arrive pas à les faire passer comme il faut. J'ai l'impression que si on prend ce texte, évidemment, au niveau littéral, on risque de tomber sur des écueils ou sur des incompréhensions. On pourrait dire, effectivement, tout ça, c'est de la légende, tout ça, c'est n'importe quoi, finalement. C'est écrit il y a 2000 ans. Et finalement, ces textes sont obsolètes aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus. En fait, la lecture du Séracide que nous avons lu tout à l'heure est quand même assez intéressante. Moi, ce qui me plaît dans cette lecture du Séracide, c'est que, étant tout à fait à la fin de la révélation vétérotestamentaire de la première alliance, on arrive à avoir de manière si forte des conclusions comme celle-ci. Le Seigneur a pitié de toutes les créatures. L'homme peut avoir pitié de son prochain, ça c'est bien, mais c'est déjà pas mal. Mais le Seigneur a pitié de toutes ces créatures. Il y a une sorte de plénitude, une surenchère là, à ce moment-là, qui est dite dans le texte qui a été lu tout à l'heure, de manière assez forte. Moi, quand j'ai relu ce passage du Séracide, je me suis dit, là, il y a un truc qui se passe, c'est quand même intéressant. Et effectivement, il y en a déjà là, avant Jésus-Christ, tout le message de la bonne nouvelle qui est là, la grâce. Pour tout le monde, pour tous. Là, ce n'est pas Jésus-Christ qui le dit, c'est un sage de la fin du judaïsme de la première période. Je crois que c'est intéressant de partir de là, parce qu'à ce moment-là, on se dit effectivement, si Dieu a pitié de toutes les créatures, il doit avoir pitié de tous ces gens qui sont là. Mais alors, comment fonctionne, du coup, cette guérison des lépreux? Alors, le texte, il est assez intéressant parce que c'est un texte qui n'est pas un texte normal. Lorsqu'on le lit en français, on ne s'en rend pas compte. Mais si on le lisait en grec, on s'apercevrait que tous les termes qui sont employés dans ce texte sont des termes liturgiques. C'est curieux. Et en fait, vous allez le voir, on a dans ce récit des 10 lépreux tout le déroulement d'un culte. C'est assez curieux. Il y a un texte comme ça qui est quelque chose de caché presque dans ce texte et qui l'éclaire. Jésus accorde la guérison. Il accorde la guérison, certainement. Alors effectivement, le premier stade, c'est la surprise. Surprise, il y a Jésus qui traverse la Galilée, la Samarie. Enfin bon, normal, il aurait pu éviter la Samarie parce que les Juifs n'aimaient pas aller chez les Samaritains qui sont leurs faux frères. Et donc, il les aimait particulièrement pas. Il passait par la vallée du Jourdain pour éviter la Samarie. Mais là, il passe par la Samarie. Pourquoi, etc. Puis, brusquement, il y a ces 10 gaillards qui surgissent comme cela, qui sont là. Alors, ils sont quand même assez dans la loi. Hein. Ils demandent grâce, ils demandent pitié. Ils ont le sentiment que Jésus est quelqu'un d'important. Mais ils restent à distance quand même. Ils restent à distance parce que la loi obligeait les lépreux à rester à distance pour éviter la contagion. Donc on a cette rencontre qui est là, qui est un peu bizarre d'avoir ce groupe, cette équipe de lépreux qui surgit de, on ne sait pas très bien où, dans ce village qui n'est pas nommé, dans la Samarie où Jésus n'a rien à faire. C'est peut-être le fait même de la parole de Dieu, de la rencontre avec Dieu, que d'être ainsi un peu surprenante finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces lépreux se mettent à crier, et pitié, de manière assez forte, de telle sorte que Jésus entend. Donc, il est interpellé. La voix a ceci de particulier, c'est que on l'entend, on la fait sienne, elle nous questionne. Elle peut nous déranger, elle peut nous consoler, etc. Mais elle est imprécise quant à son origine. Si l'une ou l'un d'entre vous se cache derrière un des piliers du temple, que je ne le vois pas et que se mette à parler, j'entendrai bien sa voix, mais je ne le verrai pas. Donc il y a quelque chose d'imprécis à ce niveau-là. Et pourtant, la voix est forte, elle porte, elle percute, on l'entend. Donc il y a cette interpellation de la part des malades, des lépreux. Mais Jésus voit. Jésus voit ces lépreux. Il les voit, il les entend et il les voit. Et là, c'est différent. Parce que la vision, c'est l'acuité, ça va être la précision à ce moment-là. Après l'interpellation, effectivement, il y a l'origine même de cette interpellation. Les deux sont nécessaires, le voir et l'entendre. Le voir, l'entendre qui est global, qui envahit l'espace, et le voir qui devient précis, qui permet précisément de pouvoir cerner le problème de manière précise, forte, finalement. Et le voir et l'entendre permettent cette distance aussi, qui est intéressante, qui permet, en entendant le cri de détresse que poussent les lépreux, permet de voir finalement qui ils sont. Or, Jésus ne voit pas des lépreux. En fait, il ne voit pas des lépreux. Nous, peut-être que nous aurions vu des lépreux avec les stigmates de leur maladie qui défigurent complètement, enfin bon, qui est assez terrorisant d'une certaine manière. Jésus ne voit pas les lépreux, il voit des êtres humains. Et c'est là où est tout le truc, si je puis dire. Il voit des êtres humains. Jésus ne leur demande rien, finalement, ce n'est pas la question. Il ne leur demande pas qui a péché, s'ils sont eux, leurs parents ou n'importe. Il les voit en êtres humains en train de souffrir. Et c'est comme ça qu'il les reçoit. Il les a entendus, il les voit. Dans cette distance qu'il y a entre eux, il se passe quelque chose d'essentiel. Et donc, il les envoie. Et leur dit, allez, il leur dit simplement, allez vous présenter au prêtre. Ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire qu'il ne vient pas vers eux, il ne leur dit pas, venez vers moi, je vais vous toucher, comme il le fait parfois lorsqu'il y a des malades. Il les renvoie à eux-mêmes, il les laisse se débrouiller. Allez-y, il leur dit. Allez voir le prêtre, ça va marcher. Et c'est ce face-à-face avec eux-mêmes qui est intéressant, avec une parole d'envoi et tout un chemin qu'ils vont faire pour aller voir le prêtre, c'est-à-dire un homme de Dieu pour les Hébreux, finalement. Un aboutissement. Allez vers cet homme de Dieu, vous verrez, les choses se passent comme ça. Jésus, là, est dans la loi, d'ailleurs. Ça fait partie des prescriptions de la Torah. Que d'aller voir le prêtre lorsqu'on est guéri, purifié ainsi. Mais dans ce cheminement qu'il va y avoir entre le lieu où se trouve Jésus en Samarie et le temple de Jérusalem, effectivement, il y a un cheminement en fait intérieur qui se passe. Ces hommes vont se questionner eux-mêmes, ils sont seuls face à eux-mêmes. Jésus n'est pas avec eux, finalement. Il les renvoie à eux, jusqu'au prêtre, précisément, jusqu'à ce personnage ou ce lieu, si on préfère, qui est tout à fait exceptionnel, qui est très signifiant, finalement. Il y a tout un cheminement là qui se fait, qui peut être le cheminement de tout un chacun qui, se trouvant dans la détresse, entend une parole de réconfort et d'envoi et qui, cheminant dans sa vie vers un but, peut très bien avancer intérieurement dans la bonne direction. Et ça, c'est le début. C'est le début du culte tel qu'il est présenté par Luc. La deuxième partie, c'est la reconnaissance. Après la demande, la prière de demande, c'est la reconnaissance. L'homme revient, il répond. Il répond et il vient se jeter devant Jésus, face contre terre. Et ça signifie qu'il reconnaît que Jésus a quelque chose de l'ordre de Dieu, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui lui a communiqué véritablement une raison d'être lui-même et d'être dans la vie, donner du sens à sa vie. Et effectivement, c'est là que Jésus lui dit « relève-toi », qui lui signifie tout à fait « sois ressuscité », soit dans une nouveauté de vie complète qui n'a rien à voir avec la précédente, et vas-y. Et il envoie à nouveau cet homme, ce Samaritain, avec cette conclusion tout à fait extraordinaire. Vous voyez, c'est la foi, cette confiance qu'il a placée en Dieu finalement, qui lui permet non seulement de saisir qu'il n'y a pas de cause perdue, qu'un être humain est toujours un être humain, et que ça c'est important, et que c'est ce noyau qu'il faut retrouver pour que l'homme puisse vivre, et qu'il puisse vivre dans la liberté finalement. Et puis c'est cette confiance qui lui permet de revenir, de reconnaître et donc de pouvoir redémarrer à nouveau dans la vie et dans la résurrection, dans la nouveauté de vie. Donc on a là tout un cheminement qui va, si vous voulez, comme vous voulez, la confession des péchés, si je puis dire, d'une certaine manière, avec la présentation à Dieu jusqu'à la bénédiction finale d'un culte, hein, finalement, ni plus ni moins. Je veux dire, on pourrait faire des parallèles avec ce que nous vivons en ce moment, finalement. Là, vous me direz, mais alors les neuf autres? Les neuf autres, ils sont toujours au bénéfice de l'amour de Dieu, puisque le Siracide nous dit que le Seigneur a pitié de toutes les créatures, quelles qu'elles soient, peu importe, donc ils sont là, ils avaient la chance d'être au bénéfice de l'amour de Dieu. Tout un chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut avec. Il y a là aussi un message de respect et de liberté de la personne humaine. Alors vous me direz, effectivement, ce qui est intéressant dans toute cette affaire, c'est cette incongruité de la rencontre, cet inattendu. Savoir que même si nous sommes dans des moments extrêmement difficiles de notre vie, eh bien, il peut y avoir une rencontre qui bouleverse tout. Sachant que Jésus nous entend toujours, que Dieu a toujours pitié, effectivement, qu'il nous responsabilise, il nous laisse repartir seuls, à nous de faire le cheminement de nous approprier finalement, de nous saisir nous-mêmes de notre vie, de notre destin. Il y a là un message de liberté totale qui est tout à fait extraordinaire. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls face à nous, avec cet amour que Dieu nous communique d'une certaine manière pour que nous puissions vivre. C'est la grande démarche de cette rencontre. Et en plus, cette rencontre dit l'universalité. Effectivement, Dieu a pitié de toutes les créatures. Et là, c'est un Samaritain. C'est la deuxième fois, si je ne me trompe, que Luc présente un Samaritain. La première, vous savez tous, c'est le bon Samaritain dans la parabole, je veux dire, évidemment. Et là, c'est à nouveau un Samaritain qui est mis au premier rang, si je puis dire. C'est avec les problèmes que posent les Samaritains, peu importe. Ce qui compte, c'est cette manière d'être, ce renversement, ce retour, finalement, que le Samaritain va vivre et qui va lui faire comprendre qu'il y a une nouveauté de vie qui est là, qui est dite, qui est présentée et qui est présentée pour tous, qu'on soit Samaritain, qu'on soit Juif, qu'on soit hier ou qu'on soit aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais véritablement, tout est ouverture, tout est rencontre, tout est parole. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a que la grâce qui est là. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des couacs, effectivement, mais peu importe, Jésus ne dit pas un mot négatif sur les neuf autres. Il dit, les neuf autres, où sont-ils? Tout simplement. Hein, on peut toujours finir cette histoire et essayer d'imaginer le destin des 9 autres, finalement, peut déboucher là aussi sur une reconnaissance, comme ça arrive parfois. Vous savez, on sème une parole et puis la récolte se fait quelquefois des années après. Tu vois, les pasteurs ont des histoires là-dessus, hein, de catéchumènes ou de personnes qui, entendant une parole à un moment donné de leur vie, disparaissent de la circulation, on les voit plus, puis 20 ans, 30 ans, 40 ans, quelquefois sur leur lit de mort, se remémorent des choses qui, etc. Et là, toc, hein, alors qu'on croyait tout perdu, tout est gagné, hein, je veux dire, finalement. Et donc voilà, pas de malédiction, pas de jugement, que de l'appel à la vie, finalement. Jésus, là, révèle finalement une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui est intéressante, parce que c'est tout le message du Nouveau Testament qui est là-dedans. Alors vous me direz, la grâce, le royaume, tout ça, c'est un petit peu eschatologique, comme nous disons dans notre jargon, c'est-à-dire tout ça est reporté à la fin des temps. Mais c'est une fin des temps qui est déjà présente. C'est-à-dire que ce royaume, nous l'attendons en plénitude pour la fin des temps, n'empêche qu'il est quand même déjà présent en signe et en espérance. Il est là pour que nous puissions en vivre. Il est là pour nous dire et faire du sens, finalement, et nous dire que ce royaume, c'est un royaume de l'universalité, c'est un royaume de l'amour, finalement, quelque chose absolument de dynamique et de joyeux, au final. Pas de culpabilité, pas de malédiction, la grâce pour tous, chaque être humain, fût-il lépreux et samaritain, est un être humain en dignité. Et ça, c'est essentiel. Je peux vous dire que quand j'enterre un SDF au cimetière de Thiers, c'est d'abord un être humain qu'on voit. Enfin, toujours un être humain. Voilà, pour lequel on choisit un poème, pour lequel on dit un discours qui est toujours individuel. Toujours. On ne dit jamais le même discours. Parce que chaque être humain a de la valeur, de la dignité, a une histoire. Hein, on peut l'interpeller, etc. Et ça, ce texte nous dit effectivement tout cela à travers cette liturgie de la guérison, finalement. C'est la foi. C'est la foi qui est fondée sur ce type de message. C'est la foi qui est là et qui est possible parce que précisément, il y a la grâce. Ce texte, il est fait pour nous, aujourd'hui, pour que tout un chacun ici se dise « peut-être que je suis comme le lépreux, un peu, beaucoup, mais il n'empêche que, à travers ce texte, je sais que l'amour de Dieu est aussi pour moi et qu'il est pour moi en plénitude. » Amen.